Chapitre 4. Si Victor n'avait pas inventé la combinaison des tables, ce n'était pas qu'il ne cherchât point lui aussi à attirer l'attention de Marichette, mais c'était simplement parce que les dispositions des deux bureaux ne lui permettaient pas cette combinaison. Marichette lui tournait le dos. Avec sa constante préoccupation de la femme, cette obsession de tous les instants, de sa pensée comme de ses rêves, qui tournait chez lui à une sorte de manie délirante, l'arrivée de Marichette l'avait jeté dans un état violent. Une femme dans la maison. Il en avait presque perdu la tête. À la vérité, cette femme n'était qu'une jeune fille, qu'une toute jeune fille. Mais cela n'était pas pour refroidir son enthousiasme, bien au contraire. Quelle différence entre cette jeune fille et la veuve de 49 ans. Il en avait assez depuis longtemps déjà de la veuve. À vrai dire, il en avait toujours eu trop. Et s'il ne rompait point avec elle, c'était par timidité et par faiblesse, parce qu'il était si malheureusement organisé qu'il ne savait pas plus se décider à dire « je ne veux plus » qu'à dire « je voudrais bien ». Mais elle l'exaspérait autant qu'elle l'humiliait. Pouvait-il supposer que ses camarades lui fissent tous les soirs des plaisanteries sur la veuve aux pieds gelés, comme il disait? Comment savait-il qu'elle avait les pieds gelés? N'était-ce pas humiliant? Victor, réchauffe-toi bien. Prends du calorique. Pour toi et pour elle. Ces plaisanteries étaient stupides. Combien de fois l'avait-elle fait rentrer chez ses parents alors qu'il était parti pour aller passer la nuit chez elle? C'était par la gourmandise qu'elle l'avait séduit, et cela était encore un sujet de grief contre elle. Comment avait-il été assez bas, lui qui se sentait le cœur haut et chevaleresque, pour céder à l'appât d'un bon dîner ou d'un souper fin? « Reviens demain, puisque tu as été content aujourd'hui du salmi de Bécasse, je te ferai préparer demain un pain de levrau à la gelée. » On n'en mangeait pas chez le père de dessus la mare, du pain de levrau. Et c'était même tout juste si on mangeait du pain sec à sa faim. Mais ce n'était pas une raison pour qu'il mît ainsi les passions de son ventre au-dessus de celles de son cœur. Car il ne l'aimait pas, la veuve, il ne l'avait jamais aimée. Oui, ses salmis de Bécasse étaient tendres et veloutés, mais elle était dure et sèche comme un morceau de bois. Oui, les séductions de sa cuisine étaient irrésistibles, mais pourquoi n'en avait-elle que dans les choses de sa cuisine? Pourquoi son âge était-il plus vénérable encore que celui de ses vins? Avec cela, acariâtre, hargneuse, jamais contente de rien, se plaignant de tout. Il n'y avait pas de jour qu'il ne se promît de rompre une liaison qu'il abaissait à ses propres yeux. Car enfin, fait comme il était, il méritait mieux qu'une vieille maîtresse qui le mettait dans cette position ridicule de n'oser pas avouer ses amours vrais et d'en être réduit à se vanter de celle qui n'existait. Avec Marichette, comme tout changeait. Elle était adorable, celle-là. Elle avait la jeunesse, la grâce, la beauté. Ses yeux noirs étaient ceux qu'il aimait, de même ses cheveux blonds frisés. Quand il avait imaginé la femme idéale qu'il voudrait, c'était justement les charmes qu'il trouvait en Marichette qu'il lui avait donnés. Les yeux profonds et tendres, cette carnation fraîche et veloutée, cette taille fine, longue et souple, son type, comme il disait. Il n'y aurait pas à rougir de celle-là, on pourrait justement s'en vanter. Quand cette idée avait commencé à prendre corps dans son imagination, il était devenu d'une sévérité qui allait jusqu'à l'injustice pour les inventions culinaires de la veuve, et, un jour qu'elle lui avait servi un pâté de foie de canard arrivé de Toulouse le matin même, il avait déclaré que cela n'était pas fameux. Que se passait-il donc en lui ? Elle avait été effrayée, car c'était la première fois qu'il se montrait injuste, pour une de ces prévenances auxquelles il avait toujours été si sensible. Il se passait qu'il avait honte de sa gourmandise. Pouvait-on prendre plaisir à manger du pâté de foie de canard quand on aimait une fille ravissante comme cette petite Marichette ? Car il l'aimait. Du jour où il l'avait vue, il l'avait aimée. Elle serait la seule femme dont il s'occuperait. Plus de promenades sur place, à la recherche d'une passionnée qui se laissa prendre à ses yeux langoureux et à ses attitudes sentimentales. Plus de salmis de Bécasse, plus de pain de levrau. Jamais il ne retournerait chez la veuve. Si elle le poursuivait, eh bien, il aurait le courage de se sauver. Mais ce n'était pas tout d'aimer Marichette et de venir 10 fois par jour se promener autour d'elle en la regardant tendrement. Assurément, il avait foi dans la puissance du regard et particulièrement du sien. Mais elle était innocente, cette jeune fille, très innocente, naïve, pure. Elle pouvait ne pas comprendre, et même, il fallait bien qu'il la voie, elle paraissait ne pas comprendre du tout. Depuis qu'il s'était mis cet amour en tête, il avait changé toutes ses habitudes. Autrefois, c'était pour les dimanches qu'il réservait ses toilettes de vainqueur, celles qui devaient, lui semblait-il, frapper les passionnés, et pendant la semaine, il portait à son bureau des vieux vêtements qui étaient bien assez bons pour les menuisiers qui venaient acheter du bois ou les débitants qui venaient goûter de l'alcool. Dans l'hiver, il mettait même des gros sabots qui lui permettaient de patauger à pied sec au milieu de la boue, du poussier de charbon ou de la sciure de bois des chantiers. Mais du jour où il avait aimé Marichette et où il avait voulu qu'elle comprît qu'il l'aimait, il avait arboré tous les jours la toilette des grandes circonstances. Plus de vieux vêtements, plus de vieux sabots, mais la redingote noire, des bottines et des nœuds de cravate qui étaient tout un poème pour qui savait traduire leur langage symbolique. Pour sa personne, il avait eu la même coquetterie que pour sa toilette. Puisqu'elle avait les cheveux frisés, elle devait aimer la frisure chez les autres. Partant de ce raisonnement, il avait entrepris de se faire une tête frisée aussi. Sans doute, cela serait assez difficile parce qu'il avait les cheveux raides et qu'il avait toujours porté longs et plats. Mais enfin, cela ne devait pas être impossible et pour vaincre cette difficulté, il s'était mis des papillotes tous les soirs, ce qui ne l'avait pas fait friser mais l'avait ébouriffé d'une façon très drôlatique. C'était quelque chose que cela, ce n'était pas encore assez. Comme il pensait sans cesse aux femmes, il s'était fait tout un répertoire des moyens de séduction qu'il croyait irrésistibles. Ainsi pour les odeurs. Qu'une femme respirât certains parfums, et c'était fini, la plus vertueuse succombait infailliblement. Si ses appointements le lui avaient permis, il aurait dévalisé les boutiques des coiffeurs de Saint-Maclou, mais cette dépense lui étant interdite, il avait dû se contenter de parfumer son linge en faisant dessécher des tiges fleuries de mélilot, cette plante qu'on trouve partout dans les haies et dont l'odeur augmente par la dessiccation. Bien qu'il n'y eût pas d'intimité entre lui et Paulin, il n'allait pas jusqu'à se détester et à ne pas se parler. Le genre de Paulin ne convenait pas à Victor, le caractère de Victor ne plaisait pas à Paulin, voilà tout, et ils ne se seraient pas recherchés quand même la politique de Belloc ne les aurait pas excités l'un contre l'autre, mais ils ne se fuyaient pas non plus. Un matin que Victor tournait depuis plus d'un quart d'heure autour de Marichette, en la regardant pendant qu'elle écrivait sans relever les yeux sur lui, Paulin entra dans le bureau et se mit à fureter dans les coins. « Qu'est-ce donc que vous cherchez ?» dit Victor. « Je me demande d'où provient une odeur de foin qu'on sent depuis quelques instants. » « Comment, une odeur de foin ? » ?»« Ne le sentez-vous pas aussi, mademoiselle ?» demanda Paulin. « Parfaitement, répondit Marichette en souriant. « C'est-à-dire que je sens une odeur d'herbe, mais je ne sais si c'est l'odeur du foin. » Tout en parlant, Paulin s'était approché de Victor. « Mais c'est vous, dit-il, qui sentez cela. Avez-vous donc couché dans le foin ?» Victor se rengorgea, indigné. « Que vous êtes simple, dit-il, ce que vous prenez pour l'odeur du foin est un parfum très distingué, celui du mélilot que je mets dans mon linge. » Il appuya longuement sur « très distingué », car c'était sa préoccupation constante qu'on le prît pour un homme distingué. Incontestablement, il était ce qu'il y avait de plus chic à Saint-Maclou, du moins il le croyait. Sa nouvelle tenue distinguée et pleine de chic avait jeté ses camarades dans l'étonnement. « Pour qui cette toilette ? Pour la veuve aux pieds gelés ? Allons donc !» On avait cherché, mais sans trouver. Il y en avait qui prétendaient qu'il s'habillait pour un être imaginaire, comme celui qu'il aimait, mais cela était trop déraisonnable pour être admis. Il pouvait raconter aujourd'hui ses amours de demain, mais on ne s'habille pas pour la femme de demain. Ce n'était pas non plus pour la femme de demain qu'il emplissait ses armoires à linge de bottes de mélilot qu'on le voyait rapporter les dimanches de ses excursions dans la campagne. On le plaisantait, on l'aiguillonnait. « C'est une herboriste, lui disait-on. » Mais il ne se fâchait point. « Justement, répondait-il. »